sur le campus. Il est 8h.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
une... ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un con là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
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 Bienvenue à l'émission 832 des entonnoirs. Autour de la table, Serge.
Bonjour.
Maxime.
Bien le bonjour.
Greg.
Bonjour à tous et à toutes.
Olivier.
Bonjour.
Nicolas.
Bonjour.
Houssine.
Bonjour.
Azad.
Bonjour tout le monde.
Rachid.
Salut.
Clarisse.
Bonjour.
Amine là-bas dans le fond.
Bonjour.
Et Nico et
salut.
Christopher.
Salut tout le monde.
Et Ben derrière la console au programme de cette émission. On parlera d'actualité évidemment. Nous aurons une discussion sur cette inévitable pic de chaleur que nous subissons partout en France. Greg nous donnera quelques astuces. Maxime nous parlera de Baudelaire. On aura des conseils sortis avec Houssine et Greg. Et côté musique, nous écouterons les Spunny Boys, Al Green, Hightone. Et on commence avec Serge qui nous propose The Bangles.
Bon, voilà. Je vais vous passer le groupe Ten Bangers. C'est un groupe féminin, américain, de rock, originaire de Los Angeles, en Californie. Il est composé de 4 femmes, dont une batteuse et 3 guitares électriques, dont la leader, guitare et chant. Aujourd'hui, le lundi 13 juin, non, je vous...
29 juin. Non,
ouais.
29.
Ouais. Ouais. Je vais vous allez écouter Acid Child of Winter.
C'est quoi le vrai titre, Clarisse?
C'est pas meilleur que Serge, mais c'est Easy Shade of Winter.
Ok, allez.
Alors, c'est 4 minutes de bonheur en oubliant tout ce qui se passe dans le monde et envoyez la sauce.
Easy Shade of Winter en plein été, c'est bien, ça va nous faire du bien. Merci Serge pour cette proposition musicale. Nous continuons cette émission 832 des Entonnoirs avec l'Actu Service Jingle.
Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
L'Actu Service, la revue de presse des Entonnoirs. On va commencer. Allez, avec Azad.
Alors, je parlais du match de foot PSG-Inter-Miami. Les Parisiens corrigent la formation de Lionel Messi et se propulsent en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont gagné 4-0. Les champions d'Europe affronteront le Bayern Munich ou Flamengo en quart de finale.
Ce sera le Bayern. Des réactions, Rachid ?
Non, bah, je vais en finir avec... Bon, en parlant de ce match, moi je voulais parler un petit peu d'écologie et puis de la démesure américaine. Vous savez que pour ce match, il y a un stade de 90 000 places qui est entièrement climatisé. Bon, il y a un toit, mais c'est quand même un grand stade. Et en fait, l'équipe de Miami, elle joue sur un terrain synthétique. Pour la compétition, parce que ça ferait con de jouer sur un stade synthétique, ils ont fait venir 39 camions du Texas de pelouse qu'ils ont mis. Mais comme le club de Miami n'a pas les jardiniers qu'il faut et tout ça,
pour entretenir la pelouse,
bah la pelouse, là, maintenant, elle va être enlevée et jetée. Et ils vont refaire un synthétique. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Ça pollue, ça dépense des millions. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, je trouve que ça, c'est un peu dégueulasse. Ils n'ont pas de quoi entretenir la pelouse, mais ils ont de quoi climatiser le stade. Donc c'est un peu...
Comme ils ont fait au Qatar aussi, un peu comme au Qatar,
les stades à ce qu'ils servent là, on sait pas.
Je pense que c'est pas le championnat de foot du Qatar qui remplit les stades là-bas. Des réactions là-dessus?
Oui.
Nicolas,
ouais. Ça se trouve à Miami, moi j'irai pas là-bas avec des stars pornographiques et tout ça.
Avec quoi?
Des stars pornographiques et tout ça.
Ok. No comment. Olivier, pardon.
En parlant de stars, et comme on est dans le domaine du foot, du football, Paul Pogba est monégasque. L'international français, 32 ans, et champion du monde en 2018, s'est engagé pour 2 saisons avec l'AS Monaco. Et pour nous, c'est pas mauvais non plus. Olivier Giroud, sauf incroyable rebondissement, le meilleur buteur des Bleus, portera le maillot du LOSC et des Dogs.
Des réactions? Pogba à Monaco, Giroud 38 ans au LOSC. Moi, Giroud 38 ans au LOSC, ça me fait penser un peu comme quand Kluivert est arrivé au LOSC et qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose. Quoi.
Ou comme Papin à Bordeaux.
Ouais.
L'athlète, il vieillit.
Ouais, c'est ça, ouais.
Après, j'ai vu une vidéo de Pogba quand il a signé son contrat. Il était en pleurs, en fait.
Ok.
Ouais. C'est une descente aux enfers.
Tu es dégoûté après, de venir habiter à Lille, c'est ça?
Non, mais
Pogba, pardon. Pogba, ouais. Je pensais Giroud en pleurs. Putain, je vais à Lille.
Après, Giroud, je pense
que tu passes de Milan à Lille quand même, tu vois. Donc bon. mais Pogba en pleurs, ouais, c'est pas étonnant. Il pensait qu'il ne rejouerait jamais.
Bah ouais.
Et Jonathan David, a priori, il irait à la Juventus.
Exact.
Voilà. Actu suivante. Nicolas.
En France, il y a eu de l'orage. Sous la force du vent, il y a un pylône électrique de 400 000 volts qui s'est effondré. Il y a un enfant de 12 ans qui a perdu la vie à cause d'un arbre qui a chuté. Il y a un éclair qui a frappé une église. Même le clocher y a été endommagé. Comment ils se forment les orages? C'est dans le nuage qu'on appelle le cumulonimbus qui se situe à 1 km à sa base, qui peut s'élever jusqu'à 10 km dans le ciel, qui peut s'élargir jusqu'à 60 km de diamètre, qui peut peser jusqu'à 800 000 tonnes. Le nuage y monte à 100 km/h dans l'atmosphère. Comment ils se forment les éclairs? Avec soit de la grêle, de la neige ou de la pluie mélangée, ou soit avec les courants d'air chaud ou les courants d'air froid qui se rencontrent. Un éclair, c'est 100 millions de volts sur 9 km de longueur, sur 10 mètres de largeur, qui peut atteindre 3000 degrés, qui dure 1/100 de seconde, qui font jusqu'à 100 000 km à seconde, qui peut frapper 26 fois au même endroit sur la planète. Sans éclair, il frappe par seconde la Terre. Les éclairs, ils peuvent aussi provenir de la Terre, l'air il est conductible quand il y a de l'orage. Le tonnerre il peut gronder jusqu'à 215 décibels. Quand on est surpris par un orage à la campagne, il faut se mettre en boule. J'ai bégayé un peu, excusez-moi.
Pas de souci, merci pour ces infos précises. C'est marrant de se dire qu'on a un truc de 800 000 tonnes au-dessus de la tête qui flotte dans l'air quand même. Hein. C'est beau la nature. Info suivante, qui n'a pas donné d'infos, Azad ? Ouais, allez Azad.
Alors, je vais donner une info de médecine, de santé. Karma, l'entreprise française qui fabrique des cœurs artificiels temporaires, se déclare en cessation de paiement. La société fondée en 2008 à destination des patients souffrant d'insuffisance cardiaque terminale avait lancé une campagne de dons pour assurer la poursuite de ses activités. Elle va demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Des réactions ?
Non. C'est pas des cœurs définitifs ?
C'est
temporaire.
Ouais, c'est temporaire. Ils ont fait des nouvelles avancées. Enfin, je sais pas si vous avez vu là. Ouais, pour les cœurs aussi, c'est tout nouveau. Mais c'est temporaire parce que ça remplacera jamais un vrai.
Non, c'était pour les personnes en attente de greffe, j'imagine, ou des trucs comme ça, non ? Ouais. Ok. Ok. Bon, voilà. No comment. Info suivante, Olivier.
Oui. Alors. La justice fait le lien entre les algues vertes et le décès d'un jogger. L'État condamné. Bon, il apparaît que c'est un coureur aguerri de trail, donc quelqu'un qui a une condition physique déjà exceptionnelle. Il aurait été intoxiqué par des algues. J'en sais pas plus, comme on en a parlé hors antenne avec.
En fait, c'est des algues qui proviennent de fermes d'industrie porcine, en fait, de fermes qui élèvent des cochons, je crois, de mémoire. Et en fait, c'est l'évacuation des eaux usées de ces fermes-là qui coulent jusque la plage et qui fabriquent des algues vertes. Pardon. Toxique et qui dégage du soufre, d'après ce que me disait Rachid tout à l'heure. Donc tu peux passer juste à côté, respirer du soufre et en quelques secondes être pris d'insuffisance respiratoire et mourir tout simplement. Quoi. Mais c'est bien qu'on arrive à une condamnation finalement de l'État dans cette affaire. Greg ?
Ça fait longtemps que les nappes phréatiques sont polluées à cause d'une nitrate, soit de porcins, soit n'importe quelle agriculture animale rejette des déchets qui se retrouvent dans la nappe phréatique en tant que nitrate. Donc c'est forcément il y a des pollutions. Je savais pas qu'il y avait les algues, mais il y a d'autres choses qui sont comme la dioxine, comme il y a d'autres trucs qu'on retrouve dans les animaux ou les plantes ou qui sont
et pollués dans les nappes phréatiques, bien sûr,
immangeables, non comestibles.
Qui a encore une info, Nico?
En France, à Marne-la-Vallée, au parc Euro Disneyland Resort Paris, il y a un monsieur de 39 ans qui a voulu se marier avec une jeune fille de 9 ans. Le monsieur s'est fait arrêter. Avant 1900, la majorité, elle avait 23 ans. De 1900 à 1974, la majorité, elle avait 21 ans. Et de 1974 à aujourd'hui, la majorité, elle a 18 ans. C'est faux ce que les adultes y rajeunissent. En général, la majorité sexuelle, elle a 16 ans. De la naissance à 16 ans, c'est de la pédophilie. De 16 ans à 18 ans, c'est des détournements de mineurs. Et j'ai une blague que j'ai rajoutée.
Attends, on va attendre les réactions. Mais j'adore ta phrase. C'est fou ce que les adultes y rajeunissent. Ça les génère, cette phrase. Des réactions ?
Moi, je trouve ça glauque. Tout simplement, j'ai pas changé d'idée, vrai.
Christopher.
Alors, en fait, donc, c'est un Anglais de 39 ans. Qui se mariait avec une fille, donc une fillette de 9 ans, d'origine ukrainienne, mais qui est en France depuis 2 ans. Et là, récemment, apparemment, ce monsieur, il avait déjà été condamné en 2016 pour agression sur deux jeunes filles de 15 ans.
C'est quand même bizarre cette histoire, parce qu'en fait, il dit que c'est une blague, il a payé plein de figurants pour faire les gens qui étaient invités au mariage. La mère de la petite fille était présente au mariage. Donc on a du mal à savoir si c'était un truc sérieux pour dissimuler quelque chose ou juste une blague ou pour faire parler.
Ou un message un peu militantiste
peut-être,
pour le fil ou un truc comme ça.
D'autres réactions ?
Ce genre de gars, je te jure, c'est...
Vague. On disait tout à l'heure qu'on pouvait que quelqu'un pouvait très bien se marier dans certains pays avec une fille de une petite fille quoi. Une
jeune, bah, y a,
pas
ouais,
adolescente
ouais.
Encore, même pas adolescente. Je crois que c'est plutôt une règle, quelque chose que j'ai voulu nous montrer, nous démontrer qu'on pouvait très bien ouvrir, avoir un parc à nous et faire ce qu'on veut du parc.
Oussine, ouais, t'as levé la main.
Dans les pays comme l'Afghanistan, le Pakistan ou l'Arabie, c'est dès qu'elle est féconde, c'est-à-dire 14 ans, 15 ans.
Ok.
Mais pas 9 ans.
Ok. Info suivante. Est-ce qu'il reste des infos à annoncer, Olivier, peut-être ?
Oui, alors, il y avait hier dimanche le championnat de France de FFC, donc le championnat de la Fédération française de cyclisme professionnel. Ils ont eu la permission de faire un tour en moins de 16 km à cause de la canicule. Je trouve ça très progressiste et j'espère que les coureurs ne devront plus comme ça prendre des risques.
Oui, parce que c'est les exposer à des dangers de santé en les faisant rouler à vélo sous la canicule comme ça, c'est vraiment de l'inconscience presque.
On dit qu'il faut saler les aliments.
Ah ouais. Azad.
Et bien hydraté.
Il y en a, je sais pas comment ils font, mais c'est vrai, il y a autant de dopage dans le cyclisme, c'est vrai. C'est parce que pour tenir comme par exemple comment il s'appelait le numéro 1, je crois que c'était Armstrong.
Armstrong.
Et il y a en fait tous ces trophées, ils lui
ont retiré tous ces trophées, ouais. Enfin, ouais. Prends le micro d'à côté, Ossine.
C'est pas lui qui avait un vélo semi-électrique ?
Non, ça c'est des. Il y a d'autres coureurs qui sont soupçonnés d'utiliser ces vélos-là. Mais là, d'ailleurs, il y a, un nouveau bouquin qui sort sur des révélations de dopage dans le cyclisme, dans le peloton. Qui vient encore une fois faire peser le doute sur le fait que les coureurs cyclistes sont pas dopés quoi.
Monter une montagne à vélo, c'est quand même dur. Moi déjà ma voiture elle rame.
Après on a un spécialiste du cyclisme aujourd'hui, il doit avoir un avis différent du nôtre.
Après c'est un vrai sport, hein. Les gens ils s'entraînent.
Vous m'attendez toujours au tournant.
Bah ouais.
Et moi je défends la cause.
Normal.
La cause de la passion du gamin qui est ému devant ça, qui a besoin de s'acheter son premier vélo à la majorité et d'aimer ça quoi, parce que c'est sans amour il n'y aurait rien de possible là-dedans, hein.
Ouais, mais
même si on peut le dire.
On peut,
c'est masochiste.
Il faut distinguer la passion de la quête de la performance parfaite et du monde professionnel du cyclisme.
Ouais, moi je suis de la part du rêve. Moi je suis
voilà.
D'ailleurs.
Ouais. Ok.
Pardon.
Non, rien. Merci pour ton intervention, Olivier. D'autres actualités ? Non ?
Alors, moi j'en ai une dernière. Alors, ça concerne la nature. En Indonésie, des étudiants, des militants écologistes et des bénévoles, ils plantent des palétuviers lors d'une campagne de conservation de la mangrove à Aceh Besar. Et cette phrase de Robert Louis Stevenson, « Ne juge pas chaque jour » à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Et on les voit donc, tous ces gamins qui ont de l'eau à hauteur du bassin, quoi, et qui plantent de la terre.
Qui replantent la mangrove, ouais. Bon, ok, en tout cas, merci pour tous ces sujets proposés. Les entonnoirs, Nicolas, une petite blague pour terminer cet actu service.
Quel est le nom de famille qui est le plus connu sur la planète? La famille tout le monde. Mais bon, ça restera les Martins.
Martin, Martin.
Martin, c'est en France que c'est le nom le plus répandu.
Oui, c'est okay. En France, excusez-moi.
Musique proposée par Maxime.
Oui, Ayton, le sous-shit de l'album qui est sorti en 2005, Wave Digger. Une chanson qui m'est particulièrement à cœur.
Les Entonnoirs, émission 832. Nous sommes le lundi 29 juin 2025 et on va donc pouvoir maintenant lancer notre discussion sur le pic de chaleur qui nous touche en ce moment même et qui touche d'ailleurs toute la France et même le monde entier, hein, parce qu'il y a des pics de chaleur à 49 Espagne, degrés en Indonésie, Espagne, en Italie, Espagne, Afrique du Nord. C'est l'enfer. Olivier nous en parlait à l'instant avec le championnat de France de cyclo-cross ou c'est cyclisme, c'était ?
Non, le championnat de France de la Fédération française de cyclisme.
Qui a été raccourci.
Le championnat de France pour les pros, championnat de France professionnel. Ça se passe toujours juste avant le Tour de France.
Il y a aussi des classes fermées, puisque c'est toujours pas les vacances scolaires, donc à peu près 200 écoles fermées entièrement ou partiellement. Bon, alors ça, c'est les chiffres officiels qui sont annoncés, hein, mais je pense qu'entre hier et aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont se décider quand même à pas faire venir les enfants dans des bouilloires thermiques. Greg, une première action.
Ouais, je voulais dire qu'en fait, moi, je pensais à un truc. Je me disais pourquoi, en sachant qu'il y avait la canicule, qu'il y avait une prévention caniculaire qui était prévu déjà depuis un bon moment, ils savaient qu'il y avait un canicule, pourquoi ils n'ont pas prévu des classes vertes, des classes, des sorties au frais, forcément, pas forcément au cinéma, mais peut-être dans des parcs ou dans des endroits plus frais.
Quelqu'un veut répondre ? Serge, ouais.
Eh bien, il est temps. Hein. J'allais penser à la deuxième préoccupation, il s'inquiète du climat. Voilà.
Pour répondre à la question de Greg, je pense que sortir par temps de canicule, emmener des gamins, même dans un parc où tu vois, faut les emmener en bus, tout ça, c'est compliqué en fait de faire des activités même en plein air avec des enfants quand il fait ce temps-là.
Mais dans le bus, c'est la clim. Et en plus, j'ai entendu ce matin aux infos qu'un monsieur un ministre ou
un député.
Ah non, pas député. Un politique parlait que justement qu'il fallait aller dans les parcs, etc., pour se rafraîchir.
Après, c'est une bonne idée. Hein. Ils vont à la forêt de Falampin, t'auras pas trop chaud.
C'est vrai.
En plus, c'est climatisé. C'est parce que nous, on se plaint là, mais si tu regardes en Afrique, en Amérique du Sud et en Australie, c'est assez classique tout ça. Et puis, ça arrête pas. Je vous rappelais pas quand il y avait neigé. Si on remonte à 10 ans à l'arrière, c'était la catastrophe. On n'avait pas le matériel. Fallait acheter des neigeuses. Comment ils font en Suède ? Voilà, il faut. Je pense qu'il faut adapter parce que tu renvoies les gamins chez eux. Mais si ça tombe, là, tu habites dans une cité toits et il fait encore plus chaud sous les toits.
C'est vrai.
Tu vois, tu règles pas le problème. Juste, tu règles la responsabilité du directeur de l'école, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, donc... après, je pense que des chaleurs comme ça, c'est... quoi, 37, 38 degrés. En Afrique, c'est tous les ans.
Ouais, mais on peut pas... Tu peux pas raisonner comme ça, Rachid. Tu peux pas dire, en Suède, ils ont l'habitude d'avoir froid. En Afrique, ils ont l'habitude d'avoir chaud. Donc, nous, on doit s'adapter, mais on s'adapte dans les deux sens. Tu vois,
c'est... je pense
qu'on n'a pas les infrastructures pour... Regarde, les écoles sont des passoires thermiques. Je pense à Macron qui veut envoyer les gamins... raccourcir les vacances scolaires, envoyer les gamins mi-août à l'école pour faire leur rentrée des classes. Mais mi-août, il fait des chaleurs pas possibles. Tu connais des écoles où il y a la clim, où c'est bien isolé, où quand il y a du soleil, tu peux baisser les rideaux et tout ?
Non, où il y a la clim...
Non, mais en fait, dans ce cas-là, c'est quoi la
solution ? C'est de la fête des parents, donc... si c'est la faute des parents, ça va.
Mais les envoyer à l'école quand même par 40 degrés, c'est pas une solution non plus.
Mais en Afrique, ils ont pas la clim. Hein. Tu crois la clim dans les écoles ?
Mais en Afrique, ils ont peut-être des écoles qui sont plus adaptées, qui sont plus aérées, qui prennent moins la chaleur, qui sont pas des bouilloires thermiques comme on les a ici, tu vois. Nous, on a des vieux bâtiments en briques, en béton et en verre. Le verre, ça fait effet de serre. Donc ça accentue aussi la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est facile de dire, ouais, faut s'adapter. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Greg ?
Ouais, je voulais dire qu'en fait, c'est marrant, mais l'an dernier, il y a plusieurs années, il y a un parent d'élève qui avait inventé un système pour réchauffer une classe, en quelques minutes, avec un petit appareil. Il devrait faire pareil pour la climatiser. Ça serait bien marrant.
Serge ?
Ouais, tout le monde oublie qu'il y a 23 ans, en 2002, il y a une vague de chaleur. Et il y a eu pas mal de personnes âgées qui sont décédées, manque de déshydratation.
Déshydratation, déshydratation. Voilà. Ouais.
Ils n'allaient pas à l'école. Hein.
Amine.
Oui, j'ai quand même une petite pensée pour les parents qui ne pourront pas...
C'est sûr, garder les enfants, c'est compliqué.
Ouais. C'est clair que c'est compliqué. Ça va être assez compliqué de les mettre quelque part. Donc, il faut quand même penser aux parents. Mais bon, on ne va pas quand même... aller mettre les enfants dans, ouais, dans un sauna.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, ce que dit Rachid, c'est vrai, c'est si le gamin habite aussi dans une bouilloire thermique, il n'a pas de solution. Où qu'il aille, de toute façon, il va avoir chaud. Oussine.
Moi, je voulais demander s'il y en a un qui avait entendu s'il y a des restrictions d'eau. Parce que quand il y a la canicule, on ne peut pas arroser le jardin, on ne peut pas laver la voiture, on ne peut pas.
C'est une bonne question, ouais, j'ai pas entendu
moi,
parler
j'ai
de
pas
ça.
Pas entendu non plus, ouais. Il faut.
En tout cas, pas chez nous pour l'instant. Il y a certainement des départements, ça doit être le cas, hein, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus, Nicolas?
Même à Cherbourg, il fait 29 degrés cet après-midi à Cherbourg.
Nico, ouais, l'autre Nico.
Ouais, bah, en fait, même si on écoute un petit peu les experts du GIEC, là, les experts pour le climat, ils ont des perspectives sur les 10, 20, 30 prochaines années avec un vrai réchauffement en plusieurs degrés. Enfin voilà, ils le disent, maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Donc oui, il faut s'adapter, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui est fait au niveau de la planète pour réduire les émissions de gaz. Bon, en tout cas, ce n'est pas suffisant. Et là, ils nous ont bien prévenus. Donc oui, on va devoir s'adapter. Et rien que se redire un peu les bons conseils, rester à l'ombre, boire de l'eau, bien s'hydrater, prendre soin chacun des autres. Bon, là, c'est ce qu'on pourra faire. Mais on ne pourra pas réduire les émissions de gaz à effet de serre avec nos petits bras. Il faut que ce soit des décisions, je pense, bien au-dessus.
Là, sinon, le risque, c'est le coup de chaleur. Donc le coup de chaleur, c'est quoi? C'est une baisse de tension importante. Parce qu'il fait chaud, les veines se dilatent et donc il y a une baisse de tension avec maux de tête, vomissements et puis on peut faire un malaise et puis perdre connaissance. Voilà, un des signes d'alerte, c'est si vous suez plus. S'il fait très chaud et vous n'avez plus de sueur, ça veut dire que votre corps n'est plus capable de. En fait, la sueur, elle vous refroidit. C'est pour ça que les bédouins, ils boivent un thé pour. Ils ont un coup de chaleur et après, ils se sentent au frais. Ils ont une suée et après, ils se sentent au frais. Et donc voilà, si vous voyez qu'il fait super chaud et que vous n'êtes pas luisant et tout ça, c'est que vous êtes déshydraté, vous pouvez faire un malaise. Après, il y a des médicaments aussi avec lesquels il faut faire attention. Par exemple, pour parler d'ici, les neuroleptiques. Il faut faire attention, il faut bien vous hydrater là en hiver. Et ceux qui ont des traitements anti-hypertenseurs, comme ils font baisser la tension. Et que quand il fait chaud, les veines elles se dilatent, comme je l'ai dit, et ça fait baisser aussi la tension. Ils peuvent faire des hypotensions. Okay. Donc buvez bien, les gars.
Moi, je tiens à signaler qu'il faut surtout faire attention aux personnes âgées isolées et aux enfants en bas âge, parce que c'est eux qui seront les plus touchés par ces vagues de chaleur.
Petit conseil aussi pour ceux qui ont des animaux, des chiens notamment, quand ouais. Vous allez promener vos chiens de ce temps-là, ne le faites pas sur des trottoirs qui sont exposés au soleil tout le temps. Le bon test, c'est vous poser votre main sur le bitume. Si votre main ne tient pas 5 secondes, c'est que votre chien ne tiendra pas non plus et qu'il peut se brûler les coussinets. Donc promenez vos chiens très tôt le matin et très tard le soir si possible.
Et surtout, ne laissez pas vos chiens dans une voiture fermée,
ça, c'est clair.
S'il vous plaît. Parce que ça arrive tous les ans. Et je ne dirais pas mon conseil quand vous voyez un chien comme ça, parce que je ne veux pas...
inciter au vandalisme.
Mais je pense que tout le monde voit à peu près ce que je veux dire.
Idem pour les enfants, on est en train de se dire.
Ah ouais,
ouais, bien sûr.
Justement, j'ai été en poser des bébés à l'intérieur de... Et fenêtres fermées. Il n'y a rien.
Puisqu'on est dans les conseils et les astuces, on va maintenant écouter Greg qui a quelques conseils santé pour nous.
Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques petites astuces. En fait, deux. J'en ai plusieurs, mais j'en ai choisi que deux. D'abord, ne jetez plus les noyaux de date, car ils peuvent être, lorsqu'on les réduit en poudre, ils peuvent servir de gommage pour la peau. Ensuite, ils peuvent être fabriqués du keul traditionnel. Qui servent pour les yeux, protéger les germes, etc. Ensuite, ça fait aussi ça agit sur l'antioxydant, et ça régénère la peau. Ensuite, ça traite l'anémie. C'est riche en potassium, donc c'est bon pour le sommeil. Donc ça fait qu'on est moins perturbé la nuit, on dort mieux la nuit. Ça joue aussi contre l'intoxication hépatique et rénale.
Ensuite, ça baisse ça fait baisser le pourcentage de sucre dans le sang. Ça fait baisser aussi le pourcentage du niveau de cholestérol. Ça stimule la mémoire et ça baisse le stress. Donc, j'étais plus là les noyaux de date. Pour ceux qui en mangent.
Dis donc, t'as fini
c'est
là
fou, hein.
T'as
c'est
fini,
fou. Hein. Ah oui, c'est fou.
Ça
c'est...
fait gagner l'auto aussi.
Ah non,
ou
pas
l'auto.
Non, mais c'est, faut vraiment, c'est vraiment super pratique. C'est trop pour la santé. C'est vraiment pas acheté ça. Moi, je les jette toujours. Franchement, j'ai touché.
Moi, je mange pas de date, donc a priori, je vais pas pouvoir faire ça avec les noyaux de date.
Après, la deuxième, c'est comment pouvez-vous protéger vos enfants des dangers des écrans ? Alors, j'ai choisi celui-là parce que je trouvais ça vachement intéressant. Bon, ils en disent pas beaucoup plus. C'est à vous de creuser la tête, mais je vous donne quelques petites astuces. Donc, vous d'abord, vous pouvez proposer des ateliers dans différents lieux pour échanger ensemble, entre parents et professionnels, sur l'utilisation des écrans, plus sur les dangers que peut entraîner une surexposition aux écrans. Donc partagez vos astuces avec tous les parents d'élèves, les voisins, ceux qui ont des enfants, afin d'éviter que vos enfants deviennent accros aux écrans et après il sera trop tard. Voilà pour mes petites astuces.
Des réactions ? Bon. Eh ben, on va passer à la musique suivante. Il s'agit de Al Green. Al Green. Un dieu de la soul music années 60. On peut l'appeler comme ça. Et le morceau qu'on va écouter, Clarisse, c'est ?
C'est Hammerham.
I'm still a kid.
Les Entonnoirs, émission 832, la suite est fin, avec la chronique de Maxime.
Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète français qui, je l'espère, pourra vous parler, qui s'appelle Charles Baudelaire. Alors, Charles Baudelaire, il est né le 9 avril 1821 à Paris et il est mort le 31 août 1867 à Paris aussi. Ses influences sont Victor Hugo, Edgar Poe, Flaubert, Ovid. Il a influencé Rimbaud, Verlaine et Walter Benjamin. Sa partenaire était Jeanne Duval. Son genre était la poésie, la poème en prose, les essais et la critique d'art. Son style était le classicisme, le symbolisme et le romantisme. À présent, je vais vous poser une petite question. Quand je vous parle de Charles Baudelaire, quelle œuvre ou livre ou style de livre vous parle?
Bon, les paradis artificiels.
Oui.
Les fleurs du mal.
Les fleurs du mal, exactement, l'un de ses essais les plus connus. Et un dernier.
Non, c'était pas pareil.
Fleurs du mal aussi. Bon, une partie des fleurs du mal, mais qui pour moi sont son importance, le spleen de Paris. Ses thèmes sont la beauté, la vérité, le mal, la violence, la volupté, la mélancolie, l'horreur et l'exotisme. C'est un précurseur du symbolisme en 1870 et du surréalisme en 1920. D'ailleurs, pour vous, d'où vient le terme surréaliste?
C'est-à-dire d'où vient, de quelle œuvre, quel artiste, d'où ça vient?
Oui.
Quelqu'un a la réponse?
Non, André Breton qui part du mouvement Dada, et je parlerai d'ailleurs du surréalisme un peu plus tard, une prochaine fois. Charles Baudelaire a d'ailleurs fait partie du club des hachichins. Il était bohème, dandy parisien. Il a écrit le vin et le hachiche comparé comme moyen de multiplication de l'individualité. Il cite « Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière » ou encore « Il faut s'enivrer sans trêve de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. » Il dira aussi « La femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves. » Mes sources sont le Figaro, Encyclopédie Universaliste, Larousse, Wikipédia, Google, etc. Je vais m'arrêter là, à moins que vous avez quelques questions sur.
Oui, Maxime, moi je connais. Enfin, de Baudelaire, j'ai l'impression que c'est le poète torturé. Tu as évoqué le spleen. Est-ce que tu penses qu'il était dépressif?
Alors, oui, c'est sûr que Baudelaire a eu une tendance un peu dépressive, poète maudit. Il a d'ailleurs dans sa jeunesse dérivé sur pas mal de choses, et au point de vue que ses parents ont fini par le déshériter et lui donner juste une rente mensuelle afin d'essayer de calmer ses excès, on va dire. Ouais. Mais surtout le spleen, pour moi, c'est plus une sorte de nonchalance, une sorte de partie de son individualité dans sa culture, dans sa nature. Mais le spleen, c'est pas que dépressif. C'est oui, il y a du sombre, comme je l'ai dit, il y a de la violence, mais il y a aussi de la volupté. Il y a de la mélancolie, mais il y a aussi de l'exotisme. Il y a du mal, de la beauté, de l'horreur, de la vérité, de l'exotisme, etc.
Ok. Greg,
c'est comme dans la peinture, il y a Van Gogh qui c'est lui qui a coupé l'oreille, non? C'est pas Van Gogh?
Oui, exact.
Et c'était pareil aussi, il fait partie du club et c'était la même chose, c'était le même délire. Hein, Il était dépressif aussi, mais en même temps, il faisait des trucs magnifiques, des choses magnifiques. Magnifique.
Après, les artistes ont besoin de vivre des sentiments profonds, que ce soit dans le bonheur comme dans la tristesse, pour
s'évader aussi.
Pour être inspiré, pour avoir des choses à raconter. Un type à qui il n'arrive rien et il n'a rien à raconter.
Ah, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'aurais dû la garder, cette citation. Il en parlait exactement dans une de ses citations, qui disait que pour vivre. Et retranscrire des choses, il faut d'abord les vivre et les ressentir et être ouvert à la nature, au monde, à tout ce qui peut le toucher. C'est le principe de la catharsis qu'on peut retrouver dans n'importe quelle forme d'art, dans tous les styles d'art. C'est comment, par le biais de l'art, faire sortir son émotion propre et son vécu. C'est d'ailleurs... la base qu'a instauré Konstantin Stanislavski, qui a influencé après l'Actor Studio, c'est vraiment le qui est d'ailleurs en opposition avec la distanciation de Brecht, et c'est vraiment le fait de faire vivre les choses, d'ailleurs il utilisera pas mal des exercices comme se passer pour des animaux ou faire ressortir son soin intérieur. Ça s'appelle l'Actor Studio et exactement le... Si on m'entendait...
Ouais, on t'entend.
Ouais, je sais.
Greg Fontaine a fait de belles fables. La Fontaine a fait de belles fables.
Ouais, non, mais... J'ai un trou de mémoire, malheureusement.
Non, mais c'est pas grave. C'était complet quand même. Dans le
Est-ce
micro
que
aussi.
Je peux me permettre de regarder 2 minutes.
C'est Al Pacino, le directeur.
Le directeur de.
Et d'ailleurs, vous After savez Studio. Comment Al Pacino il a été pris pour le parrain?
Parce qu'il a commencé à Actor Studio.
Mais pour en revenir sur Al Pacino, il a réussi à avoir le rôle du parrain. Il est arrivé à son audition. Il a mis une grosse droite au réalisateur, il a dit « Maintenant, vous savez que c'est moi qu'il faut prendre. » Après, je dis pas qu'il faut faire ça à chaque
casting.
À chaque casting. Mais d'ailleurs, dans le même genre, celle qui a travaillé pour Mercredi dans La Famille Adams... Elle est arrivée pleine de sang et ça a matché. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour ce rôle, elle a travaillé le violon, elle a travaillé sur pas mal de choses. Mais j'arrive pas à me remettre le
Poussine, hein.
Par contre, comme Brando, il se déguisait et il s'inspirait des gens de la rue, du trafic, en métro, en taxi. Et il passait des journées entières comme ça et... Avec ça, il arrivait à jouer des rôles comme celui dans Un tramway nommé Désir, par exemple. C'est un film dramatique, mais là, il y a beaucoup de textes.
Excusez-moi, ça m'est complètement sorti de la tête avec la discussion. J'ai en tête mon poème préféré de Charles Baudelaire qui s'appelle La Destruction. Et je vais vous le citer. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon, il l'emplit d'un désir éternel et coupable. Parfois, sachant mon grand amour de l'art, il prend la forme de la plus séduisante des femmes. Et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des filtres infâmes. Il me conduit ainsi loin du regard de Dieu, haletant et brisé de fatigue au milieu des plaines de l'ennui profond des déserte et jette à mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés, des blessures ouvertes et la paresse sanglante de la destruction.
Merci à tous pour toutes ces précisions. On passe au plan sortie avec Houssine et Greg.
Alors, rebonjour. Alors, les sources, c'est La Voix du Nord et idée de sortie pour les semaines à venir. Alors, il y a un spectacle de catch au casino. La Fédé Banger Zone Wrestling
assurera le show. Ensuite, il y a un goûter concert au Parc Matisse avec le trio Alzamoun.
C'est où le Parc Matisse ?
À Lille.
À Lille, ok, d'accord.
Et Cap sur Vambrechy, dimanche, la 4e édition, carrément rétro. La plaine du parc de Robert Sarr va devenir un espace d'exposition en plein air, avec une centaine de véhicules de collection. Et enfin, deux concerts du blues avec Dollar Bill and His One Man Band à 12h30, puis le Spunny Boys avec du rockabilly à 14h30.
Merci aussi, Greg. Ouais. Tes plans sortis.
Alors, jusqu'au 27 juillet, vous pourrez découvrir une exposition « Les mille et une tesselles », ça veut dire l'art de la mosaïque. Quentin vous invite au château de Flers à Villeneuve-d'Ascq pour une vision contemporaine de l'art de la mosaïque à travers les œuvres de quatre artistes lilloises qui sont des femmes. La mosaïque n'est pas juste des morceaux assemblés pour former une œuvre murale, c'est une technique millénaire avec de nombreux matériaux. Ensuite, attention, du nouveau pour cette année, il y a un concours gratuit qui est ouvert à tous jusqu'au 30 août. Ne la ratez pas, ça s'appelle Roubaix dans les yeux. Vous devez envoyer au maximum 3 photos ou dessins ou peintures, numérisées bien sûr, sur le mail concoursphotocer@gmail.com. Concours, plus loin, coller, photocer, photocer@gmail.com. Merci les intitulés de votre nom et du lieu de Roubaixien que vous avez voulu mettre en valeur. Pour tout autre renseignement, pour les dates de gains, etc., pour tout renseignement, veuillez vous adresser à histoireroubaix.com/concours2025. Et enfin, attention au grand départ du Tour de France. Le départ de la 102e édition du Tour de France sera donné de la métropole lilloise samedi. Préparez-vous à vibrer au rythme de cette course mythique et à vivre des moments inoubliables. Samedi, départ à 13h35. Les meilleurs artistes de la planète s'élanceront à l'île de Lille. C'est déjà la 4e fois que Lille accueille le Tour de France, le Grand Tour de France. Après 1960, 1969 et 1994. De jeudi jusqu'à samedi, un fan park est installé place de la République. Demain, jeudi, de 14h à 19h. Vendredi de 10h à 19h et samedi de 10h à 18h. Et c'est gratuit. On pourrait rencontrer peut-être les cyclistes et au moins vous renseigner sur les vélos, je sais pas ce qu'on peut avoir.
C'est surtout l'endroit où tu as tous les sponsors qui sont là aussi et qui se montrent et qui donnent des goodies aux gens, des casquettes, des gourdes, des paquets de bonbons, des trucs comme ça, quoi. Parce que bon, ce qui fait le charme de la Tour de France, c'est aussi toute la caravane du Tour de France. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une étape de Tour de France quelque part. Moi, je sais que quand j'étais gamin, ils étaient passés pas très loin de mon village. Et en fait, avant que les coureurs n'arrivent, tu as plein de véhicules aux couleurs des marques qui sont sponsors du Tour de France qui viennent et qui lancent des objets aux gens. Ça peut être des trucs en rapport avec le cyclisme ou alors pas du tout. Ça peut être
Une fois, ils ont balancé des ananas.
Super idée.
Et c'était bon, vrai.
Ah ouais, mais bon.
Quand tu vois dans la tête, fais mal. Bon, après. Ouais, donc, jeudi à 18h30. Je vous donne rendez-vous grand place à Lille, voir monter sur le podium les grands champions des 23 équipes qui participent au tour. Les coureurs sortiront de l'opéra pour défiler équipe par équipe en remontant la rue Fédère, passeront devant la gare puis rue Molinel et reviendront grand place en passant par la rue Mauroy pour être présentés sur une scène en ronde en forme de roue de vélo.
Ça, c'est dès jeudi, ça ?
C'est jeudi, ça.
Ok.
Ne ratez pas demain, donc jeudi, ce grand moment de début du Tour de France. Et encore moins le samedi à 13h35, le grand départ. Ça va être un truc de fou. Voilà, merci.
Merci, merci à tous. Oui, Christopher.
Une petite annonce par rapport à la Japan Expo.
Ok.
Donc qui se déroule du 3 juillet au 6 juillet. donc sur Paris, à Norville-Pinte. Donc c'est la plus grande convention européenne sur le manga. En invité, il y aura Junji Ito. Alors c'est le Junji Ito, c'est le spécialiste du manga de l'horreur.
Oh putain, trop bien.
Ouais.
Genre Death Note et tout ça.
Alors non, pas Death Note. Il a fait Spiral.
Ok.
Après, il en a fait plein. Okay. Et en fait, il avait notamment fait une collaboration avec le jeu de cartes Magic, où il y avait des cartes Junji Ito qui étaient sorties en édition collector. Donc voilà. Et puis après, il y a plein d'autres artistes. Mais c'est lui vraiment la grosse vedette. Voilà, je vous invite à y aller. C'est de 9h30 à 18h30. Il y a les billets donc sur le site japanexpo.com. Donc vous pouvez y aller un jour, deux jours, trois jours, quatre jours.
Et tu seras notre envoyé spécial à la Japan Expo, non?
Alors j'y vais le dimanche, moi.
Okay,
ok. Et ma femme y va les quatre jours.
Eh ben tu nous raconteras.
Je vous raconterai comment c'était.
Merci à tous d'avoir animé cette émission, les entonnoirs. Merci à vous, les auditeurs, de nous écouter.
Au revoir.
Bye bye.
Protégez-vous de la chaleur, surtout.
On se quitte avec les Spunny Boys que Houssine nous a présenté tout à l'heure. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Oh, please, Mr. Bartender. Got some money to tender. Do your job. Do it well. Don't worry.
Les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.